s'est posé la question sur manager la performance dans le monde d'après. Parce qu'on voit bien que nous avons, nous constatons des évolutions qui peuvent être conjoncturelles mais aussi structurelles. Alors en décembre dernier, on avait déjà des entreprises qui nous ont orientés. Hein, donc petit jeu dans qui veut gagner des millions. Petite question effectivement sur combien de grands groupes envisagent de procéder à une plus forte différenciation en fonction de la performance constatée. Donc effectivement, une grande majorité d'entreprises nous a témoigné le fait que un de leurs enjeux était de pouvoir procéder à une plus grande différenciation en fonction de la performance. Alors, c'est aussi une question à laquelle nous avons réfléchi parce que à l'époque, sur la crise financière 2008, on avait effectivement constaté que les entreprises, enfin, cette crise-là, avait conduit à mettre en place des politiques salariales très ciblées, conduisant à plus de sélectivité, à de la différenciation en matière de reconnaissance de la performance. Mais avec la crise que nous connaissons, nous ressentons des signaux différents, et notamment susceptibles d'entraîner une plus forte démobilisation, mais d'un point de vue collectif. Effectivement, avec la question du travail plus distant, une plus grande incertitude, le sentiment aussi que la crise n'est jamais derrière nous, des impacts aussi qui ont affecté tout le monde, et pas forcément de façon ciblée. Et c'est du coup dans ce cadre que nous avons identifier un certain nombre de leviers possibles. Tout d'abord, effectivement, de notre point de vue, la nécessité de concilier reconnaissance des plus performants et remobilisation du corps social. Effectivement, le véritable enjeu de notre point de vue, c'est de remobiliser le plus grand nombre, parce que la question de la performance ne peut pas se circonscrire aux meilleurs performeurs. Donc, c'est réfléchir dans la manière d'accompagner le management de la performance, mais dans l'ensemble des processus, dans l'ensemble aussi bien de la fixation jusqu'à la reconnaissance de la performance, de réussir à remobiliser le plus grand nombre. Enfin, une vraie question de nécessité de réaligner le processus de management de la performance dans le monde d'après. Quand on parle de réaligner, il ne s'agit pas uniquement de faire de la déclinaison d'objectifs top-down, mais de véritablement réussir l'appropriation des objectifs, mais dans une logique de management au quotidien. Donc, c'est bien ce que l'on évoquait dans la façon d'incarner, de construire sa marque, son empreinte en termes de rémunération autour de cette rémunération de la performance. Et plus largement, effectivement, sur un certain nombre de points de conviction sur ces sujets, tout d'abord mobiliser sur des objectifs collectifs, modulables et proches du terrain. Effectivement, on pense que le retour vers la performance ne peut pas passer par le tout individuel, qu'il y a certainement la nécessité d'un contrat collectif pour remobiliser l'ensemble. Alors forcément, sur des enjeux essentiels, mais quand je parle des enjeux essentiels, c'est des enjeux essentiels du moment, fondés sur des objectifs collectifs qui sont modulables, proches du terrain, de façon à être en capacité de créer du sens, de favoriser l'adhésion sur ces enjeux.
Bonjour à tous, merci Rodolphe et merci Loïc. Donc effectivement, nous avons essayé ce jour de vous dépeindre un bilan après 2 années de loi Pacte pour voir comment est-ce que la rémunération globale et les sujets de RSE avaient évolué depuis donc l'avènement de cette loi. Alors, tout d'abord, l'intérêt social et environnemental qui a été instauré par la loi PACTE a une valeur juridique parce que via son article 169, il a modifié le code civil et le code du commerce pour donc introduire la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité, aussi bien au sein de l'entreprise qu'avec toutes les parties prenantes. Et donc cette obligation de prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux offre toutefois la latitude aux entreprises d'identifier quelle serait leur stratégie en matière de RSE, de la mettre en œuvre et d'en mesurer l'impact. Donc, c'est une obligation, et notamment à travers les aspects de rémunération, et notamment de rémunération des dirigeants, qui s'impose à toutes les entreprises, et notamment cotées, d'asseoir les packages de rémunération des dirigeants sur des critères RSE, notamment pour la rémunération qui est liée à la performance. Alors, la rémunération des dirigeants étant assez vaste, plusieurs aspects de la part variable sont impactés par des critères de RSE, mais de façon à circonscrire un petit peu notre intervention, nous allons nous concentrer dans l'analyse par la suite sur les aspects de rémunération court terme, donc le variable, le bonus annuel. Donc on verra comment est-ce que ce sujet a été pris en compte et impacté sur les exercices 2019 et 2020. Et nous regarderons aussi un des aspects qui a été un changement fondamental apporté par la loi Pacte, c'est au sujet de l'épargne retraite. Donc avec une simplification dans l'ensemble, on va dire, du paysage des retraites, donc pour faciliter la portabilité des droits. Alors tout cela répondait en fait à une exigence qui venait de la directive européenne de 2014 qui instaurait des conditions de portabilité pour favoriser la mobilité sur l'espace européen des travailleurs et notamment sur les sujets de retraite. Donc, à travers son article 197, la loi Pacte a transposé par ordonnance donc cette directive et a instauré une évolution ou une révolution selon avec ces nouveaux articles 39 à droit certain, sans plafond de rémunération, qui viendrait remplacer donc les anciens articles 39, donc qui étaient des dispositifs entourés d'un certain nombre de, on va dire d'un certain nombre d'effets, à la fois médiatiques, mais sensibles, comptables, financiers, passionnés donc. La loi Pacte est venue simplifier et apporter une véritable révolution sur la façon dont les entreprises pouvaient offrir des régimes à prestations définies dans un cadre qui s'éloignait de ce qui était fait historiquement en France avec l'adossement de ces fameux articles 39 à la condition de présence au moment du départ à la retraite. Et cette évolution, cette révolution, elle va plus loin en ne fixant pas de plafond de rémunération, mais en mettant une condition pour donc les profils de type dirigeant, avec un adossement à des critères de performance. Et on verra que il y aura la possibilité donc pour ces critères de performance de refléter d'autres aspects des paquets de rémunération et que ces critères peuvent ne pas être que financiers, mais peuvent être aussi extra-financiers. Donc, Pacte arrive avec forte empreinte RSE et sur le paysage de l'épargne retraite, un véritable changement qui offre de nouvelles perspectives. Alors, on verra comment est-ce que les groupes ont réagi à tout ça, sachant que évoluer dans ce nouveau cadre nécessite la mise en place ou en tout cas la possibilité de décliner un régime collectif qui s'applique à l'ensemble des salariés. Donc, lorsque nous avons regardé comment est-ce que cela s'est traduit sur 2019 et 2020, nous sommes concentrés sur deux aspects principaux. D'abord, comme je le disais précédemment, comment est-ce que les critères RSE étaient pris en compte dans les bonus annuels des dirigeants au niveau du CAC 40? On constate que le poids moyen des critères RSE dans le variable annuel court terme s'établit autour de 13% sur 2019 et il évolue sensiblement à 14,6% sur 2020.
Je vais en 5 minutes vous présenter l'enquête sur les ARS. L'IFA a mandaté Alixio pour mener une enquête sur la manière dont les administrateurs représentants des salariés percevaient leur propre rôle, confrontés à la manière dont les administrateurs non salariés, en l'occurrence des présidents et des administrateurs de grands groupes, percevaient leurs administrateurs salariés. Donc, je vais vous donner les grandes lignes, simplement rappeler que c'est une obligation du code du commerce pour les sociétés anonymes de plus de 1 000 salariés dès lors qu'elles sont fixées sur le territoire français de désigner administrateur un ARS et si elles ont plus de 5 000 salariés et sont fixées sur le territoire français et étranger. La nouveauté de la loi Pacte, c'est d'avoir obligé de nommer 2 ARS lorsque le conseil est composé de plus de 8 membres et un ARS lorsque le conseil est composé de moins de 8 membres. La deuxième catégorie d'administrateurs salariés, c'est les ARSA, les administrateurs représentant les salariés actionnaires, qui, eux, sont au conseil d'administration dès lors que les salariés détiennent plus de 3% du capital social, incluant même les actions gratuites. Donc ça, c'est une disposition assez ancienne. Et la loi Pacte a également étendu cette obligation d'avoir un ARSA qui siège au conseil d'administration pour les sociétés non cotées. Donc effectivement, on est bien conscient qu'on a un petit biais dans la représentation des entreprises, puisque le secteur automobile est très bien représenté, que les secteurs financiers l'est également. Donc on n'est pas du tout, on va pas vous dire que c'est une enquête représentative. Puis il y a un deuxième biais qu'on va pas se cacher, c'est qu'on a été interrogé des présidents ou des administrateurs qui étaient connus pour être favorables à la représentation des administrateurs salariés dans leur conseil. Donc néanmoins, ça nous donne quand même une vision assez actualisée des évolutions et de ce qui a changé en la matière. Donc, une première restitution des entretiens avec les administrateurs salariés a eu lieu auprès du club des administrateurs salariés de l'IFA le 4 mars et une deuxième a eu lieu sur la restitution des présidents et des administrateurs le 16 juin. Alors, en quelques mots, les grandes lignes de ce qu'il ressort, il ressort d'abord que c'est quand même l'avancée la plus notable en matière de participation des salariés à la gestion des entreprises. Parce que la présence d'un ou deux administrateurs salariés dans les conseils d'administration et les comités techniques, ça a finalement changé la vie des conseils. Les attentes étaient élevées à leur égard et finalement elles sont remplies. Pour autant, ce n'était pas gagné, parce que beaucoup de présidents nous ont dit que, et même d'administrateurs salariés, qu'il y avait le paysage syndical dans son émiettement, dans son refus pour certains de cautionner toute participation, toute cogestion à la française, rendait le rôle des administrateurs salariés finalement très difficile à pratiquer. Et on va y revenir là-dessus. Et au final, les présidents, les administrateurs considèrent que les administrateurs salariés jouent un rôle très positif. Et ils sont dans l'ensemble très appréciés. Alors pourquoi ils jouent un rôle très positif? Parce qu'ils ont la capacité d'exprimer un vécu, ce qui se passe sur le terrain, de rendre compte pas uniquement de la perception des salariés, mais aussi des clients, tel que ça peut être perçu effectivement dans les activités, les ateliers ou les succursales, les usines, et finalement d'enrichir les prises de décision par des paramètres qui ne sont pas naturellement pris en compte, a fortiori quand on a des administrateurs indépendants qui vont plus avoir un avis d'expert ou financier. Et que cette prise en compte, ce rôle utile des administrateurs salariés, était également maintenant notable dans les comités techniques. Je vais y revenir au point que d'une simple capacité de témoignage, maintenant on peut leur accorder un rôle d'influence sur certaines décisions, y compris sur des politiques de rémunération. Les administrateurs salariés m'ont dit, on a bien compris qu'on n'a pas d'influence sur les montants. Pour autant, à force d'insister, on a une influence sur la structuration des packages de bonus, par exemple. Et ça rejoint le sujet précédent sur la RSE appliquée à des rémunérations de dirigeants. Ils ont milité dans certaines grandes entreprises pour que ce soit pris en compte. Alors, la première année, on les écoute. La deuxième année, on dit, tiens, il a peut-être une idée. Et la troisième année, on décide de le mettre en œuvre. Donc, effectivement, l'insistance des administrateurs salariés sur certains sujets a eu des effets tout à fait concrets.